Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, dans ce numéro de janvier 2022, Loire Mag, le podcast, a décidé de vous faire découvrir quelques-uns des métiers insolites du département. Qui sait par exemple que le niveau culteur de Chalmazel, la chef de chœur adjoint à la maîtrise de la Loire ou encore les médiateurs culturels de Pommiers-en-Forêt ou de la Bâtie d'Urfé sont des agents du département? Eh bien, si vous êtes comme moi avant cette émission, peu d'entre vous, je crois, sont au courant. Alors en route pour ces rencontres d'hommes et de femmes qui ont mis leur savoir-faire au service des Ligériens. Et pour commencer, c'est Julien Luya, maire de Firminy et vice-président en charge des ressources humaines, des richesses humaines comme on dit parfois, qui brosse un tableau général des métiers exercés par les différents agents du département.
Loire Mag, le dossier.
J'aime assez cette expression de richesse humaine, c'est vrai que ça colle bien au département. Et donc nous avons globalement 3000 agents qui travaillent pour le département au service des Ligériens.
Ça représente des métiers très différents et nombreux.
Oui, on a un panel de métiers vraiment important. Alors effectivement qu'aujourd'hui, les compétences assumées par le département nous donnent plus de connaissances au niveau du domaine social. Et effectivement, c'est notre cœur de métier de gérer la solidarité. Donc de nombreux agents, des assistantes sociales, aux agents familiaux, médiateurs de rue, sont vraiment associés à l'image du département. Mais nous allons sur tout type de métier. Je pense que c'est cette chance qu'on a aussi au sein du département, c'est de pouvoir accompagner les Ligériens tout au long de leur vie, de la naissance à travers la petite enfance, à la vieillesse, à travers nos EHPAD, à travers nos structures d'accueil pour seniors. Et donc, c'est vrai qu'on a une collectivité qui accompagne les Ligériens. Ce qui m'étonne toujours d'ailleurs de voir parfois certains degrés de méconnaissance de la part de nos administrés de ce que fait, de ce que représente le département, parce que c'est pourtant la collectivité de prédilection pour vous accompagner tout au long de la vie, dans toutes vos démarches, regarder les collégiens, voilà, nos agents dans les collèges, et puis ensuite tout le domaine social, le domaine routier, le tourisme, la solidarité. Donc voilà, c'est vraiment une collectivité qui accompagne ses administrés tout au long de leur vie.
Peut-être un regard justement à développer sur des gens dont on trouve la présence normale ou dont on n'imagine pas qu'ils sont agents du département.
Oui, alors je pense que les exemples sont multiples, mais si on prend par exemple la thématique de la voirie, eh bien effectivement, si on a des routes départementales qui sont entretenues, qui sont régulièrement réparées quand il y a des difficultés, s'il y a une projection quand il y a par exemple des nœuds routiers comme on connaît dans plusieurs endroits du département, toute cette réflexion sur de nouvelles voiries, sur les changements d'habitudes, sur les modes doux. Aujourd'hui, on a une réflexion très forte sur les voies vertes, les pistes cyclables. C'est un domaine dans lequel le département s'investit beaucoup. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on a une voie verte, par exemple, ou une piste cyclable qui apparaît dans une commune, on est content de l'emprunter, on est content de voir cette évolution dans les mentalités, sur les modes de déplacement. Mais on ne se dit pas forcément que derrière, c'est le département qui a mis en place toute cette ingénierie, qui a mis en place aussi cette projection. Pourquoi la piste cyclable passe par là et pas par là? Ben voilà, derrière, il y a toute une réflexion. Et donc ça, c'est vrai qu'on se figure pas toujours que le département travaille dans ce domaine-là. Il y a d'autres exemples, hein, sur les transports ou sur les collèges, par exemple. C'est vrai que souvent, on amène notre enfant au collège, on identifie très bien l'éducation nationale, les enseignants, tout ça, mais il est clair que les agents d'accueil, les agents qui sont plus dans la médiation, la surveillance, sur l'entretien des locaux, sont des agents du département. Et souvent, ça, c'est vrai qu'on ne fait pas du tout la corrélation. Moi, je connais par exemple des parents qui ont des enfants porteurs de handicap, par exemple. Alors, ils connaissent la MDPH, qu'on appelle la ML. Là, nous, dans la Loire, la Maison Loire Autonomie. mais ils ne font pas forcément la corrélation avec le département. Et donc, il est important de leur dire cette part de solidarité, que ce soit l'allocation adulte handicapé, que ce soit les dossiers MDPH par rapport à la prise en charge des enfants, de leur continuité scolaire, de leur protection dans des structures adaptées. Ben ça, c'est le département qui travaille dans ce domaine. Alors, pas seul, hein, bien sûr, il y a d'autres partenaires, mais c'est quand même un domaine dans lequel on s'investit fortement et sur lequel on n'a pas toujours cette reconnaissance. Donc, à nous aussi d'apporter cette information de manière plus efficace.
Il y a des collectivités territoriales, des municipalités par exemple, qui vont avoir des prestataires, qui vont déléguer certains prestataires de services, je pense en particulier au ramassage des ordures par exemple. Il n'est pas envisageable de déléguer certaines missions, au moins, du département.
C'est-à-dire que là, on est au cœur de l'intérêt général et du service public. Et il est difficile de déléguer au privé certaines missions. Je pense par exemple à la mission d'une assistante sociale. Je dirais que là, on ne doit pas, quand on est sur vraiment ce champ de la solidarité, ce champ de l'entraide, pour ceux qui connaissent les plus grandes difficultés, d'y ajouter le privé, c'est pas un gros mot pour moi, bien au contraire, mais je dirais que derrière le privé, il y a une notion de rentabilité, forcément. Quand on est dans l'entraide, on ne peut pas être dans une notion de rentabilité. Parce que si on est dans une notion de rentabilité, on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire d'aider des gens à sortir des difficultés, à pouvoir gagner en autonomie. Et pour ça, il ne faut pas ni compter ses heures, ni voir combien ça rapporte derrière. Il faut être toujours dans cette notion de service public chevillé au corps. Alors, je suis sûr que si on regardait en détail, on trouverait une ou deux missions qui seraient externalisables vers des entreprises privées. Mais je peux vous dire que le bloc, le gros des actions qui sont menées, regardez le champ de la culture. Si on commence à amener une notion de rentabilité et quelque part de capitalisme sur la culture, ben on voit bien qu'on va passer à côté de beaucoup de choses parce que la culture, elle est onéreuse, mais d'un autre côté, elle ne rapporte pas en direct comme ça, en monnaie sonnante et trébuchante. Mais par contre, elle aide les gens à s'élever, elle aide les gens à réfléchir. Et je pense que dans la société un peu individualiste qu'on a tendance à connaître, il est important de faire en sorte que les gens sortent de leur zone de confort et aillent voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, la culture, c'est un domaine vraiment de prédilection pour amener à ce sentiment-là. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il faut vraiment que ça reste dans une échelle publique et qu'elle soit gérée aussi sans arrière-pensée derrière de gagner de l'argent ou d'économiser de l'argent à travers ces activités.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Rendons-nous maintenant dans la seule station de ski alpin du département, Chalmazel, station où les conditions sont optimales en ce moment d'ailleurs, après 2 années de fermeture, l'une en raison du Covid et l'autre en raison du manque de neige. Et s'il y a justement un métier important, insolite dans cette station de moyenne montagne, c'est bien celui de Romain Voldoire, nivoculteur. Découvrons donc son métier et sa passion. Il est au micro de Clément Bonsignor.
La nivoculture, c'est la culture de la neige. Donc c'est un phénomène de reproduction de ce qui se passe dans la nature, mais tout ça bien sûr avec des équipements spécifiques.
Aujourd'hui, nous sommes en pleine journée, il y a un grand soleil et on les voit fonctionner, ces canons à neige.
Oui, ben voilà, les conditions anticycloniques, c'est la perfection. Donc aujourd'hui, on a du moins 6, donc on en profite. On ne sait jamais, à des altitudes comme la nôtre, ça change vite.
Il faut faire des réserves un peu.
C'est ça, février, c'est pas encore ici. Donc on stocke.
Comment ça se passe? Là on est derrière, devant un bâtiment. C'est un peu le nerf de la guerre là finalement.
Alors là c'est la salle des machines principales. Donc dans ce bâtiment on retrouve le départ de tout ce qui est air comprimé. On retrouve un départ d'eau. Donc là un pompage pour nous monter l'eau jusqu'au sommet. Donc il faut un petit peu de puissance. Et dans ce bâtiment on a aussi tout ce qui est supervision. D'où on maîtrise tous les paramètres de l'installation.
Et cette neige après comment elle est formée? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'eau, on a les pompes pour la monter et ensuite?
Vous voyez derrière nous là on a des enneigeurs. Donc sur ces enneigeurs on a des têtes différentes. Donc la majorité on est sur des têtes à mélange externe. Donc quand l'air et l'eau se rencontrent, ça nous forme un grain.
Il suffit juste de propulser l'eau finalement.
Il nous faut du froid, de l'eau et de l'air. Voilà. Le mélange des trois nous donne un grain de neige assez, on va dire, assez classique, rond.
Et alors on voit plusieurs types de ce qu'on appelle communément nous les canons à neige. On en voit qu'on connaît bien si on fait du ski, ceux qui sont très droits en métal et d'autres où c'est vraiment des espèces de canons. C'est la même fonction ces deux-là?
Alors c'est deux enneigeurs un petit peu différents. Donc on a l'enneigeur perche et l'enneigeur ventilateur. Donc chaque enneigeur a vraiment sa spécificité. Donc un plus pour les zones larges et un autre plus pour les zones, on va dire, étroites.
Donc là, le gros canon qu'on voit fonctionner là par exemple, qui est jaune et qui est assez massif, lui, il sert à...
Lui, il nous enneige le front de neige. On a la zone de luge, le front de neige et l'accès à les sièges. Donc c'est un enneigeur qui tourne en permanence.
C'est un travail aussi, je suppose, avec les autres équipes de la station, puisqu'on va stocker la neige. Il faut ensuite qu'elle soit étalée sur tout le domaine.
Oui, on va dire qu'on a trois services qui se rencontrent, le service des pistes, le service damage et le service neige. Donc le service des pistes va nous orienter pour les zones à fabriquer. Et le lendemain, le service neige va travailler avec le service damage pour mettre à plat la production.
Donc là, mettons par exemple aujourd'hui, là on est en train de voir les canons à neige fonctionner, on sait qu'ils fonctionnent aussi plus haut dans la station. Et ensuite, c'est au début de soirée que les dameuses vont se mettre à jouer, c'est plutôt le lendemain matin?
Alors, généralement, c'est en début de soirée, mais on a des zones où on a des gros producteurs, donc on est obligé de les faire passer le matin.
On a beaucoup de travail quand on travaille dans une petite station où finalement, c'est presque pareil de partout.
Alors, le travail, c'est le même. La différence, c'est plutôt en période estivale où la maintenance est plus vite fait car on a moins d'enneigeurs. Donc, c'est pour ça que dans les petites structures comme la nôtre, on est multipolyvalent.
À Chalmazel, est-ce que c'est plus compliqué parce qu'on est plus petit en altitude? Les périodes où justement on peut créer cette neige de culture, elles sont plus rares?
Alors la condition qui est un petit peu spécifique au Massif Central, c'est l'humidité. Donc il y a des jours, on a des températures négatives, mais on a un brouillard à couper au couteau. Il faut quand même produire, mais la qualité, c'est compliqué de l'avoir.
Justement, la qualité de la neige, est-ce qu'en neige de culture, on a la même neige que celle qui tombe du ciel, ou est-ce qu'on va quand même avoir une petite différence?
Ah, il y a quand même une petite différence, même si, voilà, comme aujourd'hui, on a les conditions, on va dire, optimales, mais ça reste quand même de la neige assez dense.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? On se forme sur le tas, là?
C'est exactement ça. Je ne suis pas du tout de formation dans la niveau culture. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Donc un petit peu de formation et puis après c'est de la volonté pour y arriver quoi.
Et toujours ici à Chalmazel?
Toujours ici à Chalmazel, oui.
Vous êtes un enfant du pays?
C'est ça, il faut être passionné pour y arriver. Si vous n'êtes pas passionné de venir en pleine nuit quand il fait moins 10, c'est compliqué.
Qu'est-ce qu'on fait en pleine nuit à moins 10 degrés?
On fait de la surveillance en motoneige sous les enneigeurs.
Alors ça, la motoneige, c'est la partie sympa du métier quand même?
C'est la partie sympa quand on la maîtrise, parce que voilà, c'est piège aussi.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Peut-être connaissez-vous le prieuré de Pommiers en forêt. Ce sont quelques millions d'histoires qui sont à découvrir dans ces murs imposants. Les visites y sont actuellement possibles jusqu'au 31 janvier seulement les week-ends, mais dès le 1er février, vous pourrez y aller en semaine aussi, selon certains horaires bien sûr, à retrouver sur le site du département de la Loire. Si vous voulez vraiment comprendre et connaître l'âme et l'histoire de cet incroyable bâtiment, vous pourrez d'ailleurs choisir une visite guidée conduite par une médiatrice culturelle du département de la Loire auquel appartient le prieuré. Un autre métier insolite au département de la Loire, peu, voire pas connu en tant que tel. Marie Rondel est médiatrice culturelle à Pommiers-en-Forêt. Avant de revenir sur son métier proprement dit, elle nous fait rentrer à l'intérieur du bâtiment. Elle répond aux questions de Lucas Laubert.
Le prieuré de Pommiers, c'est un ancien monastère fondé aux alentours du Xe-XIe siècle qui va se développer, être occupé par les moines jusqu'à la Révolution française. Et après, c'est un bâtiment qui va complètement changer de destination et de différents propriétaires. Il va passer en bien privé avec une famille bourgeoise qui s'installe. Et après, deuxième moitié du XXe siècle, on va dire, ça va devenir une maison de repos pour les membres du clergé. Donc on retrouve une fonction assimilée religieuse. Depuis les années 90, c'est le Conseil départemental de la Loire qui en est propriétaire et qui lui donne une nouvelle vie, on va dire, en tant que bâtiment patrimonial et culturel. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'activité religieuse à l'intérieur. C'est un site de visite qui accueille une programmation culturelle et des offres de médiation, la médiation dont je suis en charge ici au prieuré. Donc en visite libre, les gens ont accès à trois niveaux différents du lieu. Le prieuré primitif, qui est la vraie partie médiévale en sous-sol aujourd'hui. Une rénovation 15e, on va dire, avec un nouveau monastère reconstruit par-dessus au rez-de-chaussée actuel. Et l'étage qui contenait les dortoirs transformés ensuite en cellules. Et quand vous prenez l'option visite guidée accompagnée d'un médiateur, vous avez également accès aux charpentes qui ont été entièrement rénovées par le conseil départemental à partir de 1990. Et du coup, elles ont été conservées, rénovées et aménagées de façon à pouvoir être présentées au public. Justement, depuis une trentaine d'années, tous les travaux de restauration qui se font ont pour but on va dire, d'agrandir, d'amplifier l'offre de visite pour les visiteurs.
Alors on peut parler de votre métier maintenant, peut-être. Vous êtes médiatrice culturelle ici au prieuré de Pommiers-en-Forêt. Qu'est-ce que ça implique d'être médiatrice culturelle ici? C'est quoi votre quotidien?
Souvent, les gens ne savent pas ce que veut dire médiateur. Ils pensent à quelque chose de social. En fait, notre métier de médiateur, c'est de faire le lien entre le bâtiment et le public. Donc, on pourrait être assimilé à une fonction de guidage, mais ça va au-delà, puisque on guide les gens effectivement sur de la visite. Mais en amont, on prépare ces visites, on cible le public, on en retient des enseignements aussi, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On varie les offres selon l'actualité du bâtiment, selon les changements de société aussi. Et puis, on a aussi des missions autres qui vont être la qualité de l'accueil. On va aussi avoir des axes en communication. Justement, communiquer sur notre offre, on s'est acharné à faire des bonnes visites, il faut les faire connaître. Je dis on parce que je ne suis pas seule en tant que médiatrice au prieuré, j'ai des collègues et puis le département possède d'autres bâtiments. Donc on a des collègues notamment à la Bâtie d'Urfée, à l'abbaye de Charlieu et au couvent de Saint-Nizier-sous-Charlieu. Donc ça, ce sont quatre propriétés que possède le conseil départemental. Donc une partie de notre travail, c'est en équipe. On fait en sorte que nos offres, elles se complètent, elles s'étoffent les unes les autres. Et puis, on a aussi une programmation culturelle et une offre de médiation différente sur tous ces sites. Donc, on va caster des compagnies, voir ce qui fonctionne dans les lieux, etc., etc. Donc, on a comme ça tout un panel, soit de spectacles vivants, d'expositions ou d'offres de médiation à proposer aux gens au fur et à mesure de l'année.
Il y a plein de compétences très différentes à avoir pour faire le métier de médiatrice culturelle.
C'est un des attraits de ce métier-là, c'est qu'effectivement, on touche un petit peu à tout, et des choses très administratives, de préparation, des choses intellectuelles, et puis aussi beaucoup de liens avec le public. Donc on est aussi dans cette notion de service public, d'offrir des prestations de qualité aux gens sous l'égide du département. Donc on a vraiment cette volonté de servir les gens et de les servir correctement.
C'est particulièrement ça qui vous plaît, le lien avec le public, ce sens de contact?
Oui, l'éducation populaire, l'action culturelle, le contact avec les gens, c'est ce qui m'a motivée à rentrer dans cette branche-là. Après, il y a aussi toute la partie conservation qui est très intéressante et recherche, mais vraiment l'échange avec les gens, on en apprend tous les jours. Autant des gens que des livres, donc c'est quelque chose qui est assez passionnant, ouais.
Et alors, comment vous êtes rentrée dans cette branche-là, justement ?
Moi, j'avais fait des études d'histoire de l'art. À la base, je me destinais plutôt à ce qui était de la restauration d'objets d'art. Et puis, une chose en entraînant une autre, je suis rentrée dans un premier poste en médiation, là aussi, enfin en animation culturelle, donc plutôt à l'échelle d'une commune, et déjà dans du patrimoine médiéval, parce que c'était un peu mon cœur de recherche en études. Déjà dans un monastère. Je ne suis pas rentrée dans les ordres, j'ai peut-être raté ma vocation, mais je travaille régulièrement dans un monastère. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a plu. Et justement, j'ai été happée par cette notion de développement territorial, en fait. Par le biais de la culture, faire bouger le reste du territoire. Donc, parce que ça attire des gens qui vont faire fonctionner les commerces locaux, les hébergements, les restaurants. Donc voilà, c'est une dynamique qui se crée. Et puis voilà, on travaille avec d'autres collectivités. Il y a vraiment cette notion de créer un réseau et de faire bouger le département, la région sur ces choses-là.
D'être moteur de la vie locale.
Oui, voilà, d'être vraiment moteur et de ne pas juste attendre que les gens s'intéressent à la culture, d'essayer de les attirer sur ça, justement.
Quand est-ce que vous êtes arrivé au prieuré ?
À Pommiers, je suis là depuis printemps 2017, donc ça va quasiment faire 5 ans maintenant.
Vous connaissiez bien le lieu avant d'y arriver ?
Je connaissais de réputation, j'avais eu l'occasion justement de venir visiter en formation avec le Pays d'Art et d'Histoire du Forêt. J'avais visité les sous-sols qui venaient d'être aménagés sur les années 2005-2007, et j'avais déjà trouvé qu'il y avait un joli potentiel effectivement dans ce lieu-là. Donc j'étais ravie d'avoir été retenue et de pouvoir découvrir un nouveau lieu patrimonial avec un beau terrain de jeu quand même. Il y a plein de choses à voir.
Loire Mag, visage de la Loire.
Pour terminer ce numéro de janvier de Loire Mag, le podcast, je vous propose beaucoup de fraîcheur et de passion en rentrant au sein de la maîtrise de la Loire. Vous savez, c'est une école d'enseignement de chant choral qui s'adresse aux élèves de la 6e à la terminale et qui est l'une des 10 maîtrises en France fonctionnant sur le principe du mi-temps pédagogique, mais c'est la seule gérée directement par un département. L'enseignement y est gratuit. Cécile Matvey est la chef de chœur adjoint au directeur de la maîtrise, Jean-Baptiste Bertrand. Un métier unique en son genre, puisque la maîtrise de la Loire est la seule gérée directement par un département. Mais avant d'entendre Cécile, je vous propose d'entrer dans sa classe de 4e au moment d'une répétition.
Toi.
Ouh, Moi, je me considère surtout comme une sorte de coordinatrice. Je vais permettre aux enfants de rassembler, d'homogénéiser, de coordonner leur savoir-faire, leurs compétences de technique vocale, entre autres, puisqu'ici, on a plusieurs profs de technique vocale. Ce sont des cours dans lesquels ils sont trois ou quatre par voix pour apprendre à maîtriser tout ce qui leur permettra de devenir des chanteurs qu'ils sont déjà.
Alors, j'ai été très frappée par la façon dont vous associez le corps à la voix, par des exercices de préparation, mais aussi au moment où ils chantent, ils font comme s'ils tiraient à l'arc, ils étirent un fil au-dessus de leur tête, ils s'assoient lorsqu'ils appuient sur une syllabe, une note. C'est une pédagogie ?
Tout à fait. Je travaille depuis quelques années avec eux à chercher une liberté de mouvement. Je crois que c'est exactement ça, parce qu'on a tendance, en tant que professeur, à beaucoup parler de ce qu'il faut faire, à expliquer les choses, mais je me suis rendu compte que ça rendait les choses beaucoup plus complexes qu'elles ne le sont, et surtout que ça manquait énormément de spontanéité. Alors l'idée, c'est, du moins celle que j'essaie de suivre, c'est comment garder cette spontanéité qu'a chaque enfant en lui avant même que l'adulte ne vienne compliquer tout ça avec ses mots et ses concepts. Je pense que le fait de vivre, de se sentir en joie, dans le corps, ancré au sol, d'être vivant en fait, ça aide vraiment l'enfant à trouver les bonnes postures, le bon geste vocal.
Dans le mot cœur, C-H-O-E-U-R, il y a l'idée d'ensemble, vous l'avez dit, vous êtes celle qui coordonne, entre autres, mais vous avez ces enfants-là de quatrième. J'ai compris aussi qu'ils allaient chanter avec des sixièmes, qui auront les voix aiguës, si j'ai bien tout compris aussi, dans ces pièces russes. Le cœur, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'il y a des personnalités différentes, il y a malgré tout des capacités différentes, il y a des âges différents aussi. Comment est-ce qu'on fait vivre tout ça pour que ça devienne harmonieux ? Cécile Matvet.
Alors, je crois que c'est la grande force de la maîtrise de la Loire, justement, c'est qu'ici, on a une immense liberté dans nos pratiques, parce qu'on est tellement connecté à des structures diverses via des projets qui sont extrêmement variés. Du coup, on a plein d'outils à portée de main en tant que chef de chœur pour jouer avec eux. La chose qui me paraît vraiment importante encore ici, c'est on a tous à cœur, auprès de notre directeur, d'aider l'enfant à se développer lui-même au service du groupe. C'est encore une fois le projet du département. D'être à la fois membre d'une grande équipe, souvent de chœur de 60 élèves, mais sans jamais oublier qui on est. Alors, ce n'est pas l'idée de voir chaque voix disparaître, mais de cultiver l'énergie de chacun des enfants, enfin des membres du chœur. C'est pour ça que peut-être vous avez remarqué qu'on fait beaucoup chanter les enfants seuls au gré de la répétition, de façon anodine, sans que ce soit grave, sans que ce soit important, décisif de chanter seul. Mais c'est comme ça qu'on prend confiance. Et quand on prend confiance, le groupe grandit.
J'ai remarqué pendant ce temps de répétition que vous les faisiez se regarder. Ils se déplaçaient. Vous les avez fait se déplacer en chantant.
Pour ne jamais oublier qu'on chante pour quelqu'un, on chante aussi seul. On n'oublie pas qu'on a beaucoup de plaisir à être seul dans sa chambre pour chanter, pour faire porter sa voix. Mais ça se cultive, surtout à un âge. Bon, les adolescents comme les adultes, on passe désormais beaucoup de temps sur notre téléphone. Et ce n'est pas si facile que ça d'échanger, de cultiver ce lien. D'ailleurs, les enfants ont dit aussi tout à l'heure, ça nous aide à échanger, ça nous aide à être avec les autres. Et ça, c'est très important.
Alors évidemment, tout le monde a le masque en ce moment. Ça aide pas.
Non, ça n'aide pas, mais on serait tellement privé si on ne pouvait pas chanter. Et ça, je crois que les jeunes de la maîtrise le savent depuis le début. Et quand il y a des petites pertes d'énergie, des moments où c'est plus difficile.
Je vous ai vu au piano, debout tout à l'heure, avec toute l'énergie que vous insufflez aussi aux enfants. C'est presque vital, on a l'impression.
Oui, j'ai eu la chance de faire la musique étant jeune. C'était pour moi vital, ça l'a toujours été. Et j'ai une immense joie à vivre ces moments d'abord avec les élèves. On essaye de développer notre pratique auprès des enfants. Et quand on les voit au quotidien et qu'on vit ces expériences si fortes que sont nos concerts, on en a beaucoup tout au long de l'année. Je crois que c'est une belle récompense qui nous nourrit en tant que professeur.
Chef de chœur, un métier insolite, un métier que finalement vous étiez prête à exercer, c'était quelque chose qui vous attendait presque.
Je crois que c'est plutôt, mais vous allez me dire comme souvent, mais des rencontres assez décisives tout au long de mes études et qui ont suscité une immense curiosité. Et puis les premières expériences que j'ai pu avoir de chef de chœur, là, ont été vraiment décisives. Enfin, quand je me suis sentie compétente aussi. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui demande d'avoir plein de compétences. Alors, on n'est pas spécialisé d'ailleurs. C'est pour ça qu'au début de notre entretien, j'ai bien précisé que je n'étais pas prof de technique vocale. Je n'ai pas la compétence d'un prof de technique vocale. Je ne suis pas une pianiste concertiste, bien sûr, loin de là. Mais j'ai des compétences qui me permettent d'accompagner de façon judicieuse, du moins je l'espère, les répétitions, donner un peu de piano, mais pas trop, pouvoir travailler les partitions aussi. C'est souvent des partitions, ça peut être des partitions avec orchestre. Il faut avoir, vous voyez, une espèce de couteau suisse un peu dans la tête, savoir comment travailler pour être efficace, surtout être toujours prêt, avoir toujours un train d'avance sur les personnes qu'on doit rassembler, mettre en jeu.
Eh bien, infiniment merci Cécile Matvet, d'abord pour m'avoir permis d'assister à ce travail avec vos élèves et puis pour toute cette énergie que j'ai moi-même reçue, je dois dire.
Merci à vous.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.